Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, la COP25 conclut ses travaux à Madrid. 27 nouveaux cas d'Ebola enregistrés dans l'est de la RDC. Le HCR appelle à aider les Afghans réfugiés et déplacés. Et en dossier, rencontre avec le docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes victimes de violences sexuelles en RDC. Alors que la COP25 s'apprête à clore ses travaux à Madrid, le secrétaire général de l'ONU s'est félicité du fait que l'Union européenne se soit engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Selon Antonio Guterres, cet exemple d'action climatique doit être suivi dans le monde entier. Le chef de l'ONU a, dès vendredi matin, appelé les États membres à faire preuve d'un engagement fort dans les dernières heures de la négociation à Madrid. Antonio Guterres.
Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la COP25 à Madrid et j'appelle les délégués de tous les États membres à transmettre au monde un message d'ambition en alignant leurs objectifs, nos objectifs, sur la science et en veillant à ce que les températures ne dépassent pas 1,5 degré à la fin du siècle. Et en même temps, en demandant l'esprit de compromis nécessaire à la réussite de la conclusion des règlements relatifs à la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais en faisant également preuve de l'engagement et d'une ambition très forte dans l'action climatique.
Pour rappel, l'un des objectifs de la COP25 à Madrid est de s'accorder sur les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris, qui porte notamment sur les marchés du carbone. À noter par ailleurs que le secrétaire général de l'ONU continue actuellement de rencontrer diverses parties à la conférence, qui devrait s'achever vendredi soir. 27 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés en 5 jours dans l'est de la République démocratique du Congo, près de zones où la lutte contre l'épidémie est paralysée par l'insécurité et les troubles civils, une hausse substantielle selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les précisions d'Alpha Diallo.
Avec ces 27 nouveaux cas en 5 jours, il s'agit d'une nette augmentation des nouveaux cas d'Ebola qui étaient tombés à moins de 10 par semaine en République démocratique du Congo. Des cas qui ont été signalés dans 7 secteurs de 4 zones sanitaires, notamment les 2 tiers à Mambalako avec 18 cas, 6 cas à Beni, 2 cas à Mandima et 1 cas d'Ebola à Ouacha. Selon l'Organisation mondiale de la santé, tous ces cas sont liés à 3 chaînes de transmission. Un décès communautaire a été signalé chez une personne dont le corps a été intercepté par le personnel d'intervention à un point de contrôle alors qu'elle était transportée de l'air de santé de Luemba. Un enterrement sûr et digne a été finalement effectué. Tous les autres cas ont été dirigés vers un centre de traitement d'Ebola. Cette tendance préoccupante notée au cours de la semaine écoulée s'est traduite aussi par ces 6 nouveaux cas recensés parmi les agents de santé. 5 étaient des praticiens traditionnels, ce qui porte à 169 le nombre d'agents de santé infectés dans cette flambée, soit 5% de tous les cas signalés. Au total, 2210 personnes sont mortes de l'épidémie d'Ebola depuis la déclaration de la maladie le 1er août 2018.
Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a lancé vendredi un appel en faveur d'un soutien accru aux Afghans déplacés et à leur communauté d'accueil, avant le tout premier forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra à Genève la semaine prochaine. Lors d'un point de presse, Babar Balok, porte-parole du HCR, a dressé l'état des lieux et des défis auxquels sont confrontés des millions d'Afghans, notamment les jeunes.
As we enter the fifth decade of Afghan displacement,
alors que nous entrons dans la cinquième décennie de déplacement en Afghanistan, quelques 4,6 millions d'Afghans restent déracinés dans le monde, dont quelques 2,7 millions sont enregistrés comme réfugiés. 2 autres millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'Afghanistan. Et une écrasante majorité des quelques 90% de réfugiés afghans se trouvent encore au Pakistan et en Iran. Les Afghans constituent également le groupe le plus important de demandeurs d'asile arrivant en raison de l'aggravation brutale de l'insécurité en Afghanistan et de la pression financière croissante sur les pays hôtes. La grande majorité des Afghans, tant à l'intérieur du pays qu'en exil, sont des jeunes. Au Pakistan et en Iran, environ les 3/4 ont moins de 25 ans. Ces jeunes réfugiés représentent l'avenir de l'Afghanistan et sont essentiels pour façonner leur communauté. Mais pour ce faire, ils ont besoin de davantage de soutien.
Au Chili, la police et l'armée n'ont pas respecté les normes et standards internationaux en matière de droits humains relatifs à la gestion des rassemblements et à l'utilisation de la force lors des récentes manifestations. C'est ce qu'affirme un rapport produit par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a envoyé une équipe au Chili pendant 3 semaines le mois dernier. Le rapport contient des allégations détaillées, y compris des exemples précis de torture, mauvais traitements, viols et autres formes de violences sexuelles par la police à l'encontre de personnes détenues, dont beaucoup semblent avoir été détenues de manière arbitraire. Selon les chiffres officiels, plus de 28 000 personnes ont été détenues entre le 18 octobre et le 6 décembre, bien que la grande majorité ait été libérée. L'équipe des droits de l'homme de l'ONU a rencontré plus de 300 membres de la société civile, ainsi que les autorités locales et nationales. Elle a bénéficié d'une large coopération de leur part, ainsi que d'une aide importante de l'Institut national des droits de l'homme et du Bureau du médiateur des enfants. En République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege aide les femmes victimes de violences sexuelles à reconstruire leur vie depuis de nombreuses années. L'homme qui répare les femmes a lancé avec sa coloréate du prix Nobel Nadia Mourad le Fonds mondial pour les survivants de violences sexuelles. Au micro d'Alban Mendes de Leon, le docteur Mukwege explique le fonctionnement de son fonds et son combat pour les femmes victimes de violences sexuelles.
Je pense que pendant cette année, on a quand même enregistré des succès par rapport à notre plaidoyer. Nous en sommes satisfaits.
Le Fonds mondial d'aide aux survivantes de violences sexuelles a finalement été adopté. Comment va-t-il fonctionner ? Est-ce que déjà il est alimenté et comment sera-t-il utilisé ?
Nous sommes vraiment très contents que finalement ce fonds global pour les survivantes et survivants a été adopté le 30 octobre par les Nations Unies. Et c'est un fonds qui va d'abord être alimenté par les États, mais également nous comptons sur les secteurs privés. Il y a quelques États qui sont déjà engagés, comme la France s'est engagée pour 3 ans, à hauteur de 6 millions d'euros. Nous avons d'autres États comme l'Allemagne, la Norvège, et là, nous continuons à enregistrer d'autres États qui ont exprimé leur intention de faire partie de ces fonds, ce qui est très, très encourageant. Ces fonds vont surtout être utilisés là où les États ne veulent pas s'acquitter de leur rôle, ou tout simplement ils sont dans les dénis des violences sexuelles ou le viol qui se passe sur leur territoire. Et aussi, il y a certains États qui veulent bien aider les survivantes, mettre en place, par exemple, les modèles holistiques de prise en charge, mais ils n'ont pas le moyen de le faire. Et dans ces États-là, il est très, très important de pouvoir aussi utiliser ces fonds pour mettre en place un système de prise en charge holistique et donc soutenir les survivantes de violences sexuelles. Et ceci dans l'esprit d'aîné, de ne laisser personne de côté. Ces fonds pourront également être utilisés. Il y a des États qui, par exemple, lorsqu'il y a eu un jugement et que l'État ne veut pas donc s'acquitter de sa responsabilité de réparer, ces fonds pourront être utilisés soit pour des réparations individuelles ou collective, ça pourrait être aussi des réparations symboliques ou matérielles. Et ici, c'est pour aussi encourager les victimes de violences sexuelles de porter plainte et comprendre que même si les États ne peuvent pas ou ne veulent pas, il y a une structure qui les soutient. Nous comptons également par ces fonds pouvoir apporter l'aide technique ou un soutien technique aux organisations, aux États qui voudraient bien donc avoir un programme de réparation, mais qui n'ont pas l'expertise pour le faire. Donc vous voyez, c'est un peu plus large, mais l'objectif c'est de pouvoir en fait continuer notre lutte contre l'impunité. On ne peut pas faire la lutte contre l'impunité si en fait les victimes ne se sentent pas soutenues lorsqu'elles ont dénoncé, lorsqu'elles ont porté plainte et être prises en charge correctement.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.